Then I saw and considered it well, and I looked upon it and received instruction. Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man.
Verset 30 à 33. À 34.
Would you pray? Lord,
prions, s'il vous plaît. Seigneur, nous remettons ce temps entre tes mains, dans ta parole. Nous te demandons d'ouvrir les Écritures pour nous. Nous te remercions pour ta parole. Merci pour ton esprit. Et nous recevons de toi ces choses. Nous te répondons et nous te demandons de cacher ces choses vraiment profondément dans notre cœur. Donne-nous une nouvelle mesure de compréhension ce matin. Bénis notre cœur au nom de Jésus. Et nous attendons quelque chose de précieux de toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons eu un super week-end dans notre séminaire sur les relations. Nous avons eu notre banquet hier soir.
Refurbished banquet hall.
Dans notre nouvel endroit pour les banquets.
Tony Slocum.
Et Pastor Love et Tony Slocum,
Lisa,
Rachel et d'autres ont fait un sketch tellement rigolo. C'était tellement rigolo. Ma mâchoire me faisait mal tellement j'ai ri. Et nous, pendant ce séminaire, nous avons parlé de la maison. Du grenier qui parle de la mémoire. Nous avons parlé du sous-sol, le cœur de l'esprit qui est invisible. Le premier étage de la maison, là où est notre famille, nos échanges, nos problèmes, nos finances. Nous sommes engagés dans la vie au premier étage. Et nous avons un porche à Baltimore, c'est très commun. Ça part de notre connexion avec la communauté, le voisinage. Ensuite, Pastor Morrison a parlé de la pièce de lumière qui parlait du Fils de la lumière. Pasteur Love a prêché sur le toit de la maison parce que Romains 6 dit que nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce. Nous avons parlé aussi des relations idéalistes. Vous savez, d'avoir un voisinage parfait, un mariage parfait, des enfants parfaits, un travail parfait. Et nous étions tous d'accord de dire que c'est juste un rêve. Mais dans Romains, mais dans Proverbes 9.1, il est dit que la sagesse a construit sa maison. Et elle a taillé ses sept colonnes. Et nous sommes tous appelés à vivre dans une maison. Pas juste notre corps, mais nos relations, notre amitié, notre famille. Mais dans le proverbe qu'on a lu auparavant, Proverbe 24, il est dit qu'il y a un homme qui a marché près d'un champ et il a vu que c'était désolé, il avait une maison cassée, désolé. Il a dit qu'il a considéré et il a dit deux choses à ce sujet. Il a dit, j'ai vu ce que la paresse fait et le manque de compréhension fait. La maison demande de l'investissement. Est-ce que quelqu'un n'a jamais réparé sa maison, même des petites choses comme la plomberie, une fuite quelque part, le toit, l'électricité, les ampoules, le chauffage, les radiateurs? C'est de l'investissement, du temps, des soins, du travail, de la diligence. Et dans Romains 12, c'est là où nous sommes aujourd'hui, nous avons parlé de la pensée renouvelée depuis plusieurs semaines. Et aujourd'hui, on est dans Romains 12, verset 9. On va de l'avant. Et je vais lire d'une version qui s'appelle la nouvelle version américaine, standard. Pasteur Frank et Cathy, Pasteur Drew, Pasteur David Moore,
Pasteur Dave Sambowski,
Pasteur Stambowski,
Pasteur Murphy, Pasteur
Murphy.
Oh, let's see. The pastors that have been with us.
Tous les pasteurs qui ont été avec nous.
Pasteur Jim
et sa femme Elsie. Nous avons eu un beau week-end ensemble.
Derek, the Schultzes here from Indianapolis are planning to move here from Indianapolis to be with us.
Et donc il y a un couple d'Indianapolis qui planifie de venir ici.
Really. Please come.
Pour être avec nous à l'église. Donc venez, venez.
I give you $10 if you come. Please.
Je vous donnerai $10 si vous venez.
Okay, please come. So, how about the new people in our church? If you are new in the last year,
que dire des nouvelles personnes qui sont dans nos églises? Si vous êtes là depuis moins d'une année, levez-vous s'il vous plaît.
Go ahead, stand. Okay, awesome.
Merci, c'est incroyable. Merci beaucoup.
Yes, Antonio. Yeah, great. Great. And the 8:30 service is growing also. We have a great group.
Donc le culte qu'on a à 8h30 grandit aussi, il y a pas mal de gens qui viennent.
The house.
Donc la maison.
Okay. The house.
La maison.
It falls apart.
Donc la maison est délabrée.
A lot of our life can fall apart.
Et beaucoup de nos vies peuvent être en ruine si nous manquons de compréhension et si nous sommes paresseux. La barrière est cassée, les animaux entrent. Ils peuvent même rentrer dans la salle à manger. Ça se passe dans le tiers-monde de voir les cochons, les moutons, les chèvres vivre dans le même endroit que les humains. Et il doit y avoir un besoin de compréhension et de maintenance et d'investissement. Bien sûr que nous notons ces choses concernant notre maison matérielle, mais que dire de notre maison spirituelle? Les amis que nous avons, ce que nous lisons, ma prière, mon adoration, ma Bible, mon Église, mon investissement, mes soins, ma mission. Ça, c'est le thème du chapitre 12 de Romains. Il est dit que nos pensées ont été changées. Et maintenant, nous vivons et nous aimons. Nous avons des dons, des ministères. Même nos enfants dans nos maisons peuvent être ignorés alors qu'ils jouent avec leurs jeux modernes ou ces domaines sur Internet, des hommes et des femmes parlant sur Internet à des gens qu'ils ne connaissent pas. Et voilà qu'une pensée subjective est écrite, communiquée, et quelqu'un ailleurs dans le monde reçoit tout ça. Et cela peut rentrer dans ma vie, rentrer dans ma maison. Ma vie que la sagesse a construite. Et deux choses, la paresse, l'indifférence. Vous savez, on s'en fiche parce que je ne suis pas un leader. Il y a beaucoup de gens qui utilisent cette excuse. Je n'aime pas parler parce que je ne suis pas un leader. Parce que même parmi ma famille, je préfère rester tranquille et laisser les choses se passer, accidentellement, juste comme si elles arrivent. Dans l'indifférence, il y a un danger, parce que la maison se détériore quand je ne prends pas soin et quand je suis indifférent. Je vais dire, je ne parle pas beaucoup, je ne prends pas soin, je regarde la télé, je suis dans ma maison, les enfants et ma femme bougent autour, vivent, il y a quelque chose là-bas dont je devrais être conscient et je ne le suis pas. On va appeler ça être en marge. Donc au verset 9 du chapitre 12 de Romains, que l'amour soit sans hypocrisie. Comment peut-on dire que l'amour peut être hypocrite? Parce que avec les mots que nous utilisons, ça peut être hypocrite. Et donc, je peux parler avec ma bouche, mais mes pieds révèlent ce qu'est au fond de moi. Et je dis, je suis comme tout le monde, on est tous comme ça, on est tous les mêmes. Mais nous avons quelque chose dont on peut se glorifier, c'est que Dieu nous a donné une maison, et une maison extraordinaire, avec des mémoires, des sentiments, des affections, une famille, des interactions. Donc que l'amour soit sans hypocrisie. 1 Jean 3 dit, n'aimons pas simplement en parole, mais en action et en vérité. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Psaume 139, et suivez avec moi, dit, j'ai haï avec une haine parfaite. Et beaucoup d'entre nous peuvent dire, comment pouvons-nous haïr quand Dieu est amour? Mais amène cette question devant Dieu. Dieu, si tu es amour, est-ce que tu as aussi une haine parfaite? Et qu'est-ce qu'il va répondre? Si j'ai un amour parfait, qu'est-ce que je peux haïr? Est-ce que cela ne contredit pas l'amour? Je suis un Dieu de vérité et je hais le mensonge. Je suis un Dieu de vie, donc je suis concerné par les choses qui parlent de la mort. J'ai un amour parfait, mais j'ai aussi une haine parfaite. Nous étions en Inde, à une conférence, et nous étions sur une colline. Et il y avait des falaises de chaque côté. Et c'était un. Et il y avait un village là-haut. Et ensuite, nous avons loué des chevaux pour continuer. Et mon cheval a vu quelques brins d'herbe au bord de la falaise. Et il allait vers la falaise et je lui disais et je disais tout ce que je pouvais dire pour l'arrêter, mais il ne prenait pas attention. Et il est allé vers cette touffe d'herbe et il a baissé sa tête. Et moi, je regardais au-dessus de son cou et il y avait 300 mètres plus bas. Et je disais, et je priais. Une falaise. Quand tu marches le long d'une falaise, comment tu vas négocier ta marche? Est-ce que tu vas marcher juste à côté, juste au bord de la falaise, ou tu veux avoir de la marge? Tu veux avoir une grosse marge?
Do you know that there is danger?
Est-ce que tu sais qu'il y a des dangers dans ce monde?
Do you know that there are cliffs?
Est-ce que tu sais qu'il y a des falaises et les gens tombent de ces falaises? Est-ce que tu sais que si tu vas tout au bord, tu n'as pas de marge, et si tu fais une seule erreur, c'est une erreur dramatique et c'est irrémédiable? Bien sûr que tu le sais. Et pourquoi nous, en tant que gens, nous allons au bord de la falaise qui est le mal? Pourquoi nous disons « Oh non, ça ne m'arrivera pas » Pourquoi jouons-nous avec ce qui est dangereux, destructeur? Et la Bible dit, à cause de notre pensée renouvelée, notre cœur, et à cause de la présence de Dieu, nous haïssons le mal. Les gens qui négocient avec vous pour vous faire entrer dans un plan déshonnête. Les relations avec les femmes. Nous enseignons dans notre ministère que les pasteurs, nous ne conduisons pas une voiture avec une femme seule. Nous ne conseillons pas une femme seule dans une pièce fermée. Même Billy Graham, dans une ville appelée Modisto, ils ont eu un manifeste ensemble avec les gens qui travaillaient avec lui. Parce que des gens ont heurté la cause, ont blessé, ont brisé la cause de Christ par des attitudes qui n'étaient pas justes. Et nous voulons avoir une grande marge. Et bien sûr, prions les uns pour les autres, pour les hommes de Dieu. C'est la marge.
But we are like people that go all the way, like in our living often.
Mais parfois dans notre vie, nous marchons et nous nous retrouvons complètement au bord de la falaise. Et nous sentons qu'il y a danger. Oh, comment j'ai pu en arriver là? Je suis tellement prêt. Oh Dieu, délivre-moi et Dieu, sauve-moi de tomber. Et il le fait.
But it's also much wiser.
Mais c'est tellement plus sage d'avoir une marge. Financièrement, nous dépensons. Et nous dépensons d'une telle façon que nous nous retrouvons au bord de la falaise. Et nous vivons toujours au bord de la crise. Et il serait même financièrement sage d'avoir une marge. Dans notre vie physique, nous poussons nous-mêmes jusqu'à être fatigués, et nous arrivons au bord de la falaise. C'est un grand thème. Donc la maison, on doit prendre soin de la maison, et on a besoin d'apprendre de haïr ce qui est haïssable. L'alcool. Oh, j'ai une grande marge. Si je sens l'alcool, je m'enfuis. Ça, c'est ma marge. Ce n'est pas dans ma maison, ce n'est pas dans ma vie. Je ne veux pas ça. Je sais ce que ça fait aux familles, les accidents, les gens qui se retrouvent en prison, tous ces problèmes. Donc, ça veut dire avoir en horreur ce qui est mal et de s'attacher au bien. Et dans le psaume 101, c'est bien d'être là ce matin. Psaume 101, verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Un homme a des problèmes avec les femmes. Et il est dit que je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Dans ma maison, au verset 3. Au verset 2, je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Donc de vivre personnellement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas d'hypocrisie. Et ça peut venir, nous le sentons, nous aimons les Écritures, nous aimons la prière, nous aimons la foi, le corps. Et quand nous sommes dans notre maison, nous maintenons facilement notre maison avec la sagesse, avec une compréhension. Il doit y avoir un investissement. Il est dit ici, je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi, la voix des pécheurs. Il y a des infections qui s'attachent à notre corps, dans l'âme, dans notre mémoire. Et peut-être ta mémoire peut être affectée. Notre relation avec quelqu'un, et tu ne peux pas te défaire de ça. Et tu dois pourtant traiter avec ta maison, avec tes pensées renouvelées, avec ta vie dans une façon pratique et d'aimer. Il dit, je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Si quelqu'un tombe de la falaise, et c'est dommage, mais c'est en même temps un avertissement pour moi, afin que je sois prudent, que je me laisse de la marge, et de prendre soin de comment on organise notre maison, comment on adore Dieu, à ce qu'on écoute, à ce qu'on regarde, qui sont nos amis, les paroles qui sortent de notre bouche. Et dans Romains 12, il est dit, nous nous attachons fortement au bien. Nous attachons à la mission, à la foi, à la prière, des biographies missionnaires, des histoires qui fortifient notre cœur, la bonté, la vérité, l'honnêteté, la pureté, la transparence. Dieu avec nous, au verset 10, maintenant de Romains 12, il est dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Soyez plein d'affection veut dire philostorgeo, ça veut dire avoir de l'affection fraternelle ou de famille, des parents avec les enfants. La parole veut dire dans cette traduction, soyez donnés les uns aux autres, ça veut dire avoir un amour familial les uns avec les autres, afin de prendre soin et de se connaître les uns les autres, de s'appeler par notre prénom, de connaître d'une façon pieuse le passé des gens, leur contexte, les préférences. Donc par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. Ça veut dire de ne pas être paresseux, être fervent dans l'esprit. De se réveiller et de dire, je peux apprendre si je suis dans le corps. La paresse est rebuquée par la ferveur de Dieu. Et le manque de connaissance est adressé par la connaissance de la parole de Dieu. Pasteur Drew, Pasteur Love, Pasteur Davis, Pasteur Mosky ont vraiment des bonnes paroles au rap hier midi. Et j'étais tellement content. Les célibataires qui ont eu une session avec Pasteur Bush et Pasteur Brian Lange, c'était extraordinaire. Et je pense que notre séminaire qu'on a eu, c'était le meilleur séminaire qu'on a jamais eu. Donc si je suis vide de compréhension, quelque chose peut se passer qui détériore ma maison et je ne le sais pas, qui est dangereux, qui m'amène au bord de la falaise. Et quand je tombe, il n'y a pas de pardon. Mais si je tombe à 3 mètres du bord de la falaise, je tombe et je peux me relever et personne peut-être même ne se rend compte de ça. Bien sûr, c'est le péché, mais je le confesse, je le donne à Dieu et il me purifie. Et il restaure notre âme. Et il nous donne un esprit fervent lorsque nous servons le Seigneur.
Do we care about the people in our neighborhood?
Est-ce que nous nous inquiétons des gens qui nous entourent? Et je me dis ça à moi-même. Est-ce que je m'inquiète des gens qui habitent à 3 maisons de chez moi? Les gens qui habitent de l'autre côté de la route? Et je crois que Dieu s'inquiète d'eux. Mais je crois aussi qu'ils peuvent venir aussi. Que je peux amener 17 personnes ici en une année. Si je vais devant Dieu et je dis je veux faire le travail dans mon voisinage. Il y a sûrement quelqu'un qui cherche. Ce soir, on aura un message sur le fils prodigue. Et il y a un petit sketch.
Prodigal son and the elder brother, and they'll be behind me up here, and we've never done it before.
On n'a pas encore fait ça, mais il y aura un message avec une illustration théâtrale. Je suis très enthousiasmé de faire ça. Et notre pièce de théâtre qui va bientôt arriver pour Pâques, qui sera sur la fin des temps, on aura ça ici, dans notre église, et nous allons prier pour notre voisinage. Parce que les gens vivent au bord de la falaise et ne le savent pas. Et nous lisons dans les journaux suicide, les meurtres, l'adultère, la prison. Et tu vas dans les prisons et tu demandes à ces gens. Si tu devais recommencer, est-ce que tu aimerais avoir une marge de sécurité? Aller au cimetière et demander aux gens qui sont enterrés là-bas. Demandez-leur s'ils auraient aimé avoir plus de marge lorsque tu buvais et que tu t'es craché contre un arbre et que c'était fini. Juste une erreur. Un manque de compréhension. Où est-ce que je peux aller dans ce monde et trouver cette sorte de compréhension? Quelle université? Donnez-moi l'adresse. Quel professeur de ce monde peut me donner cette sagesse? Quel conseiller peut me donner la conviction? Non, ne fais pas cela, ne va pas là. Je t'avertis, je te le dis, il y a quelque chose de beaucoup plus grand dans la maison. C'est l'amour fraternel. C'est à ce à quoi j'appartiens. Allez, réparons les choses. Dieu est là. On va réparer. Touchons les gens dans notre communauté. Amenons l'évangile. Dieu est là. Je suis tellement occupé d'avoir un bon temps avec Dieu. Et Dieu m'amène à une autre falaise, à un autre bord, là où il est. Et il me dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et quand tu tombes de cette falaise-là, c'est un voyage. Quand tu sautes, en fait, tu ne tombes pas, tu sautes de cette falaise. C'est un voyage de foi avec Dieu. Billy Graham, j'aime ses histoires, je l'aime comme en tant qu'homme de Dieu. Et je pense comment il est allé au bord de la falaise de la foi lorsqu'il était un jeune. Alors qu'il a été sauvé quand il avait 16 ans, et à 18 ans, il a commencé. Il a fait un agrément avec Dieu. Il a dit, Dieu, je te donne tout. Je saute de la falaise dans les mains de Dieu. Et Dieu lui a donné puissance et autorité et une vie spirituelle et des audiences que personne n'a jamais eues et n'a jamais pu comprendre pourquoi. Des milliers, des centaines de millions. Et il n'a jamais fait de compromis, mais il a donné le message de l'évangile de Jésus-Christ Et il a eu un grand impact. Et il a gardé les marges de ce côté-là, de l'autre côté, de l'autre falaise. Il faisait attention. Je ne suis jamais allé sur un chat sur Internet et je n'irai jamais et je ne suis pas intéressé. Je ne comprends pas tout, mais je comprends suffisamment pour vous dire que si vous avez une faiblesse et que tu cherches une relation, tu peux trouver quelqu'un et tu peux tomber de la falaise. Je ne sais pas. Juste, je pense à ça. C'est ta vie. Mais j'ai quelque chose de meilleur que ça. J'ai des missionnaires sur Internet. Nous avons des prières, nous avons des réunions, nous avons une école biblique. Aujourd'hui, nous avons un nouveau culte qui a commencé quelque part. Nous avons une mission globale, mondiale, à cause de vous. À cause de vous. Regardez au verset 12 de Romains 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Réjouissons-nous ensemble, prions, ne soyons pas critiques les uns des autres, prions les uns les autres, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Et au verset 13, pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité. Incluez des gens dans votre vie. Faites-les rentrer dans votre vie, dans votre maison. Faites-les entrer dans votre vie, acceptez-les, recevez leur portion et laissez-les vous bénir. Et d'une façon réciproque, nous les bénissons. Verset 14, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. J'ai appris quelque chose et je pense qu'on a tous appris cela au sujet d'être mal compris. Être mal compris, c'est un privilège. Je m'attends à cela. Nous nous attendrions à être mal compris si on vit de cette façon. Les gens parlent et disent des mauvaises choses, ils ne connaissent pas notre cœur. Ils nous accusent et ils parlent et ils calomnient. Mais laissez-les faire. Jésus a dit, laissez ces gens faire. J'aime ce verset. Laissez-les. C'est OK. Pourquoi? Laissez l'aveugle diriger l'aveugle. Et qu'est-ce que deux personnes aveugles font? Les voilà au bord de la falaise. Ils ne savent pas quel est le danger. Et ils marchent comme ça pendant un certain temps, mais ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ont un groupe de gens derrière eux. Et nous leur disons, s'il vous plaît, n'allez pas là-bas, ce n'est pas saint, sauf. N'accuse pas ton frère, n'attaque pas. Qu'aucune mauvaise parole ne sorte de notre bouche. Et Dieu, et Jésus dit, laissez-les, évangélisez, criez, avertissez-les, bénissez-les. On n'est pas ici pour que qui ce soit souffre. C'est Dieu seul qui connaît ces choses, mais la main de Dieu est sévère aussi. Et Jésus a dit, laissez-les continuer dans ce qu'ils font, parce que l'aveugle qui conduit l'aveugle, tous les deux vont tomber dans la falaise. Et c'est sérieux. C'est sérieux. Et c'est pour ça que nous prions pour ces gens, pas d'une façon mécanique. Et nous disons au Seigneur, sois miséricordieux, aide-les, ouvre leurs yeux pour comprendre. Il y a un royaume ici, et il y aura aussi un jugement, et il y a le salut, et s'il n'y a pas de salut, alors il y a l'enfer et le jugement, et c'est sévère, très sévère. Et nous sommes ici non pas pour maudire, mais pour bénir. Et nous bénissons, et nous prions, et nous investissons, et nous croyons, et nous espérons, et nous voyons que des gens peuvent être changés, convertis, sauvés. Et c'est notre mission, et c'est notre prière. Voulez-vous prier avec moi, s'il vous plaît?